Il est 6 heures.
Lumière de l'orthodoxie. Bertrand Vergely.
Chers amis, aujourd'hui, après ma chronique qui continuera l'exploration des vertus, à travers celle de l'espérance, j'aurai le plaisir de recevoir le Père Jean Gait. Et entre ma chronique et le Père Jean Gait, nous aurons le plaisir, la joie, de pouvoir savourer quelques hymnes byzantins. La dernière fois, j'ai parlé de la foi en montrant ses trois aspects, à savoir l'aspect pratique, l'aspect personnel, l'aspect céleste. J'aime cette vision trinitaire et à propos de l'espérance, je vais la retrouver sous un autre angle, à travers la question de la promesse, à travers celle de l'espoir et à travers celle de l'attente. Je pense que l'espérance renvoie au oui fondamental. Et ce oui fondamental est celui qui est capable de surmonter le tragique. Ce qui est beau avec l'espérance, ce qui est magnifique avec elle, c'est qu'elle ouvre la porte et elle maintient toujours la porte ouverte. Elle tend la main et elle maintient toujours la main tendue. C'est ce qui fait que la différence avec un monde sans espérance, un monde condamné. L'espérance ne condamne pas. Et là où on pense que tout est condamné, l'espérance va au-delà et ouvre là où on pensait que tout était définitivement fermé. L'espérance s'enracine dans la promesse, à condition de ne pas se tromper à propos de la promesse. Il existe des promesses trompeuses et on a raison de les dénoncer. Ces promesses trompeuses font penser à l'homme politique qui, pour se faire élire, promet des choses qu'il ne tiendra jamais. Elle fait penser au séducteur qui promet un mariage qu'il n'accomplira jamais. Mais la promesse ne se limite pas à ces aspects sombres et ô combien détestables de la promesse. La promesse, c'est ce qui est prometteur et pas simplement ce qui trompe et qui ruse en plongeant dans l'illusion des vains espoirs. Quand quelque chose est riche, cette chose est prometteuse. Elle est riche, mais elle annonce des richesses futures. Et c'est ce qui nous remplit d'espérance. La vie n'est pas fermée. Quelque chose a beau s'achever. Cette chose qui s'achève est tellement riche qu'elle est prometteuse. Elle porte en elle un avenir. Et cela nous remplit d'espérance. Au fond, l'espérance et la richesse même de la vie, c'est la même chose. L'espérance est une affaire de promesse au noble sens du terme. L'espérance est une affaire d'espérance au noble sens du terme. Il importe de distinguer l'espoir de l'espérance. L'espoir est humain, l'espoir est psychologique, l'espérance est céleste, elle est métaphysique. Nous avons tous l'espoir de voir certains de nos rêves s'accomplir. Nous attendons le résultat d'un examen, d'une affaire, d'une entrevue possible. Et tout d'un coup, nous sommes rassurés parce que cet examen est rassurant parce que l'épreuve que nous avons passée, nous l'avons réussie, parce que l'entrevue dont nous avions besoin va pouvoir se réaliser. C'est très agréable. Il n'empêche que ça ne va pas très loin. Et il n'empêche que cette manière de vivre peut être douloureuse. Pourquoi ? Parce que quand on vit dans l'espoir, on vit dans la crainte. Et quand on vit dans la crainte, on vit dans l'espoir et on crée un cercle vicieux. Parce qu'on attend quelque chose, on a peur que ça ne se réalise pas. Mais parce qu'on a peur que ça ne se réalise pas, on attend. Et donc, plus on attend, plus quelque part, on se condamne à l'attente. Et on vit dans l'attente sans jamais vivre. D'où la sagesse des sages disant « Arrêtez d'avoir des espoirs et vivez au lieu d'espérer vivre. » Oui, il y a des vains espoirs. Et André Comte-Sponville a raison de dénoncer ceci. Spinoza a raison avant lui de les dénoncer. Et on peut dire que tous les poètes, tous les penseurs sensés ont fait le procès de l'espoir en enseignant à vivre sans espoir. Mais néanmoins, l'espoir qui est illusoire ne doit pas condamner l'espérance qui ne l'est pas. L'espérance est métaphysique et veut dire que fondamentalement rien n'est fermé. J'en parlais au début de cette analyse, mais il convient d'y revenir. L'erreur que font des philosophes, c'est de confondre l'espérance avec l'espoir et de croire que parce que l'on est dans l'espérance au sens céleste et métaphysique du terme, on est dans l'espoir. Non, ce n'est pas parce que on est dans l'espérance que on est dans l'espoir. Quand on est dans l'espérance, on n'attend rien de matériel, de personnel, de psychologique. C'est autre chose. On est dans la relation même à la vie. On pense que la vie vaut fondamentalement la peine d'être vécue. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans la vie qui fait que celle-ci est fondamentalement ouverte et va bien plus loin que tout. Et ça, ça suffit à nous permettre d'aller au-delà de telle ou telle attente avec ses déceptions. Quand on est dans l'espérance, on n'est jamais dans l'attente fébrile et on n'est jamais non plus dans la déception. Et ça permet de comprendre le dernier aspect de l'espérance, qui est l'attente. Il y a des vaines attentes et on a raison effectivement de les dénoncer. Arrêtons d'attendre tout le temps quelque chose et vivons au lieu d'attendre de vivre. Vivons au lieu d'espérer vivre. Oui, mais en même temps, il y a quelque chose de magnifique dans l'attente, qui est la même chose que celle du lien fondamental. Quand on aime, on attend l'être que l'on aime. Et quand on attend l'être que l'on aime, il arrive qu'on lui dit « Je t'attends et je t'attendrai toujours, parce que je t'ai toujours attendu. » Et là, à travers la notion d'attente et d'espérance, on a affaire au lien fondamental. Je vis avec toi, toi que j'aime, un lien d'amour qui ouvre toute ma vie. Et cette ouverture, elle a toujours vécu en moi. Elle a vécu avant moi, avant même que je te connaisse. Elle vit avec moi pendant ce temps béni où je te connais. Et elle vivra toujours avec moi. Il y a quelque chose de fondamentalement ouvert dans le lien que je peux avoir avec toi et qui fait que je t'aime. Et donc on s'aperçoit que quelque part, être dans l'espérance et être dans l'amour, c'est toujours la même chose. C'est fondamentalement la même chose. Être dans l'amour, c'est être dans le grand oui à l'être que l'on aime. Je voudrais terminer cet hymne à la vie et au oui par cette merveilleuse prière de Mère Teresa à propos de la vie. Voici ce qu'elle dit. « La vie est une chance, saisis-la. La vie est un défi, fais-lui face. La vie est précieuse, prends-en soin. La vie est une richesse, conserve-la. La vie est promesse, remplis-la. La vie est une hymne, chante-le. La vie est un combat, accepte-le. La vie est une aventure, vis-la. La vie est un bonheur, mérite-le. La vie est la vie, défends-la. » Merveilleuse manière de parler de la vie. Merveilleuse manière de parler du oui et de l'espérance portée par le oui. Pere Sviatiei, Bogoroditie pomolim sia. Pere Sviataia, Bogoroditie spasi, Bogoroditie spasi. Yeah.
Ευχαριστίαι, Βογορόδητσι, επομόλυμσια. Περέσβια τόια Βογορόδητσε σπασί, Βογορόδητσε σπασί.
Une chanteuse roumaine qui chante en roumain, en russe, en byzantin. Ici, elle exécutait un chant en russe en l'occasion de Pâques. Chers amis, la semaine dernière, nous avons eu le plaisir de rencontrer le père Jean Gate qui s'est présenté à nous et qui nous a longuement parlé au fond de sa biculturalité entre la France et la Russie. Aujourd'hui, cher père, je crois que vous voudriez nous parler de la foi.
Alors, je voudrais parler de la foi comme pour deux raisons. La première, c'est parce que, comme je l'ai expliqué, ma confrontation, ma rencontre entre mes origines orthodoxes russes à Nice, ici dans la cathédrale, et la culture locale française dans toutes ses dimensions, m'a conduit un petit peu à réfléchir, mais en réalité à prendre conscience aussi du problème de la foi, non seulement parce que c'est un problème, je veux dire en soi, nous allons y venir tout de suite, mais parce qu'il y a un problème de langue et de mots, justement. Et j'ai réalisé un jour, c'est ça le fait d'être bilingue et d'être biculturel, j'ai réalisé que autant en hébreu, en grec, en russe, en slavon, croire et la foi, c'est la même racine que vides vira, autant en français, ce sont deux mots différents, credere et fides, n'est-ce pas, du latin credere et fides. Certes, credere signifie bien donner sa confiance à, faire confiance à, et donc une espèce d'abandon. Et de même, fides qui a donné la foi, elle aussi implique nécessairement une confiance. Cependant, on peut noter qu'en français, et c'est ça qui m'a fait réfléchir, parce que j'ai entendu de la part d'autres en faire la remarque, le mot foi se compose avec l'auxiliaire avoir. Avoir la foi. Et j'ai entendu des proches dire ah, mais vous avez la chance, vous avez la foi, moi je ne l'ai pas. Bon, la foi ne relève pas d'un avoir, elle ne relève pas d'une possession.
Mais d'un être,
et qui suppose une démarche. Il y a quelque chose de dynamique, n'est-ce pas? C'est un effort.
La foi n'est pas une chose.
C'est pas une chose. Elle a besoin. C'est un mouvement, et nous allons y venir. C'est un mouvement de l'âme, c'est un mouvement du cœur, et qui suppose un peu un abandon de soi, enfin, sortir de soi pour faire confiance à l'autre et se donner à l'autre, littéralement. Et alors, à l'occasion de la semaine de l'unité qui vient de s'écouler, j'ai eu justement à faire un exposé à partir du thème qui a été le thème de la semaine de l'unité pour le monde entier. Crois-tu cela ? Crois-tu cela ? C'est une question que le Christ a posée à Marthe. Après s'être révélé lui-même comme étant celui qui croit en moi, vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et Marthe répond, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, et de celui qui vient dans le monde. Marthe peut-être aurait été la première à pouvoir confesser sa foi d'une manière aussi évidente. Pierre, qui n'était encore à ce moment-là que Simon, fils de Jonas, à la question du Christ que Christ avait déjà posée à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Mais Jésus lui dit, « Heureux es-tu, fils de Simon, fils de Jonas, pardon, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Comme si il était encore impensable à ce moment-là de concevoir que Dieu puisse prendre chair, de concevoir l'incarnation, sans que cela ne soit inspiré, j'ai envie de dire soufflé, car il s'agit bien d'un souffle venu d'en haut. Croire que Dieu puisse se faire homme, cette proclamation formulée par le Concile de Nicée, sur lequel nous reviendrons la prochaine fois, au bout de deux siècles et demi de chrétienté, et dont nous allons célébrer justement le jubilé, puisque c'est le 1700e anniversaire. Alors la question du croire, la question de la foi, demeure sans doute la plus grande difficulté pour la raison humaine. L'ensemble de l'évangile est couvert et jonché jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à après la résurrection, d'épisodes de doute, d'incrédulité évoqués par Jésus, et de toute évidence qui l'attristent. Je ne peux pas les citer tous, ils sont trop nombreux, 2, 3, 4 cas, à l'occasion de la tempête. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur, genre de peu de foi? À Nazareth, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Il paraît aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'ils avaient vu ressusciter. Et aux disciples d'Emmaüs, aux hommes sans intelligence, ce n'est pas la raison, hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et même, il va être non seulement attristé, mais exaspéré dans un cas particulier, avec le père du lunatique, que les disciples n'ont pas pu guérir, n'est-ce pas ? Et là, il se fâche jusqu'à une colère étonnante, n'est-ce pas ? Incroyable, une race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Ayant en mémoire ces épisodes, car ils nous rappellent à tous la difficulté de croire. Qui de nous pourrait se dispenser de prier comme le père du lunatique, je crois Seigneur, mais viens à mon manque de foi. Et voilà, et c'est à ce propos-là que je me proposais de venir sur les deux étymologies, credere et fides, qui, encore une fois, peuvent induire plus ou moins en erreur par certains côtés en français. Il s'agit bien que la foi donc ne relève pas d'une possession ni d'une compréhension. Et là est le cœur de la difficulté, si je puis dire, le cœur justement, car c'est à ce niveau-là que les choses se jouent, si l'on peut. Évoquons un autre épisode le plus significatif et le plus illustratif, c'est la marche sur les eaux. Pierre dit à Jésus, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui dit, « Mais viens, Pierre, viens. » Et Pierre sort de la barque, il marche sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent est fort, il eut peur et commence à enfoncer. Il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Et aussitôt, Jésus entendit la main et le saisit. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Nous, dans un premier temps, le cœur ardent de Pierre, totalement confiant, le pousse à partir sur les eaux, mais en cours de route, à la faveur de la tempête, la logique, la raison lui souffle, « Non, ce n'est pas possible !» Et il coule. Cet épisode me fait penser à une scène de familiale, n'est-ce pas, où un père dispose son enfant sur un muret, un enfant de 2-3 ans sur un muret, s'éloigne d'un mètre et lui propose de se jeter dans le vide, par-dessus le vide, dans ses bras, et l'enfant le fait sans aucune hésitation et en riant. Et quelle jubilation pour le père à ce moment-là. Est-ce que nous ne sommes pas tous, est-ce que nous ne devrions pas être tous comme cet enfant devant notre seul père, Dieu ? C'est bien pourquoi Jésus dit aussi « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Le doute, c'est l'une des armes les plus fortes du séducteur, je sais bien, du tentateur, de Satan, comme le nomme Jésus, en personne au désert, car il est l'adversaire. Le doute, cher Bertrand, professeur de philo, je ne veux pas vous faire de la peine, mais c'est ici, n'est-ce pas, le doute qu'une partie de notre culture a érigé en vertu. Car ne pas douter, c'est ne pas mettre en question, c'est être crédule aussi, dit-on en français. Or, être crédule, c'est pas moi, c'est malheureusement l'évolution sémantique, c'est être un peu simplé. Et c'est pourtant bien cette incrédulité que le Seigneur déplore avec tristesse, comme nous l'avons vu. Et il situe cette incrédulité au niveau du cœur, de l'âme. Ben, au disciple d'Emmaüs, il reproche le cœur lent à croire, ben, ou la dureté du cœur. La raison n'est pas faite pour croire, mais pour comprendre, pour prendre avec soi. Or Dieu demeurera toujours l'incompréhensible, l'inaccessible, l'invisible, mais pas l'inconnaissable. Le cœur connaît, naît avec, c'est-à-dire entre en communion et par là même fait l'expérience de la participation de ce que Grégoire Palamas appelle les énergies divines. « Viens, demeure en nous », dit la prière orthodoxe adressée au Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit, le Saint-Souffle, qui nous enseigne toutes choses et nous fait connaître Jésus, le Christ, et par lui le Père, qui m'a vu, a vu le Père. Pour reprendre l'image du poumon, je terminerai là-dessus, le poumon oriental met l'accent sur cette connaissance de Dieu qui est une expérience participative, et qui en réalité exclut de ce point de vue-là la raison. C'est ce que défend Grégoire Palamas. À la différence de celui dont il était le quasi contemporain, Thomas d'Aquin, qui valorise, qui met en exergue, n'est-ce pas, la raison, qui, selon lui, dit-il, et par nature, est appelé à découvrir la vérité. Là, je crois pouvoir dire que Grégoire Palamas, c'était inaudible. Dieu ne se démontre pas. Dieu ne donne aucune preuve de son existence. Il donne des signes que seul le cœur âme peut percevoir, reconnaître. Je terminerai par la confession de Thomas, dont on a dit qu'il était l'incrédule, mais qui, après que Jésus se soit présenté à lui, lui montrant les mains qu'il ne touche pas en réalité, en tout cas, c'est pas dit, et c'est là qu'il confessera, c'est son cœur qui se convertit et qui est touché, qui dit « Mon Seigneur, et mon Dieu, puissions-nous tous confesser comme Thomas. »
Merci, cher Père.
Au revoir, merci.
Et pour finir, à nouveau, la merveilleuse voix de Divna, immense chanteuse liturgique roumaine.
Écoutez RCF et Radio Notre-Dame, place à la musique.
Il est temps d'ouvrir nos cœurs. que nos cœurs célèbrent sa majesté. Chantons gloire au nom de Jésus, que l'honneur lui soit rendu, alors que nos cœurs célèbrent sa majesté. Il est temps d'ouvrir nos cœurs pour accueillir le Seigneur.
Et maintenant, retrouvons Bruno Fuma pour la matinale du